Excellent réveil à tous, voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Un yacht a-t-il été acheté pour Carlos Ghosn avec l'argent du groupe automobile Nissan? La justice japonaise enquête et a arrêté cette nuit l'ancien patron. Il pourrait être inculpé une quatrième fois, toujours pour des malversations financières. Nous interrogerons un spécialiste journaliste sur place à Tokyo.
Et nous nous intéresserons ensuite aux prothèses mammaires. Certains modèles sont soupçonnés de provoquer des cancers. La France les retire du marché.
Les enseignants sont de nouveau appelés à faire grève ce jeudi contre le projet de loi Blanquer. Les parents d'élèves les soutiennent de plus en plus, vous l'entendrez.
Et dans ce journal, nous donnerons aussi la parole à un élu corse. Emmanuel Macron s'y rend aujourd'hui pour clore son grand débat national entre boycott et sujet sensible. Sa visite s'annonce mouvementée.
Et puis à quoi ressemblera le débat de ce soir entre les têtes de liste des partis candidats aux élections européennes? Ils seront 12 ce soir avec un temps de parole plutôt réduit, moins d'un quart d'heure chacun au total. Il ne s'agit plus là de contrats signés alors qu'ils n'auraient pas dû l'être, de magouilles obscures, non. Cette fois, l'accusation est lourde et fera, c'est sûr, beaucoup de tort à Carlos Ghosn. L'ancien président de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi a été arrêté une nouvelle fois cette nuit au Japon. Les hommes du procureur sont allés le chercher chez lui. Cette nuit, il était environ 6h du matin à l'heure japonaise. Il le soupçonne de nouvelles malversations financières, lui qui a déjà été inculpé 3 fois par le parquet de Tokyo. Bonjour Yann Rousseau.
Bonjour.
Vous êtes au Japon, correspondant des Échos. La justice japonaise s'interroge sur des sommes d'argent qu'aurait pu détourner Carlos Ghosn via Oman, un pays de la péninsule arabique.
Oui, exactement, c'est ça. C'est la même chose que reproche Renault à Carlos Ghosn. Il semble que pendant plusieurs années, Carlos Ghosn ait ordonné des versements exceptionnels à un distributeur qui est basé à Oman, qui vend à peu près 30 000 voitures par an, et que ces sommes aient ensuite été retransférées vers une société qui est au Liban, qui s'appelle GFI, et qui est liée, contrôlée par un ami de Carlos Ghosn. Et cette société a ensuite fait des investissements personnels pour Carlos Ghosn. Il y a eu notamment l'achat d'un yacht de luxe en 2015 et des versements, des injections de capitaux dans la start-up du fils de Carlos Ghosn qui est en Californie. Et pour le procureur, c'est un abus de confiance aggravé.
Alors, Carlos Ghosn s'est en quelque sorte défendu avant l'arrestation cette nuit. C'était hier sur Twitter. Il avait fait savoir qu'il comptait dire toute la vérité lors d'une conférence de presse. Elle est prévue dans une semaine. Quelques heures plus tard, il a donc été arrêté. Yann Rousseau, est-ce un hasard ?
Alors, tout dépend dans quel ordre on prend les choses. Ce que je comprends, c'est que Carlos Ghosn a su assez tôt hier qu'il avait un gros risque d'être arrêté ou ce matin ou demain matin, vendredi. Et donc, il a fallu qu'il réagisse en termes de communication. Et c'est à ce moment-là qu'il a ouvert son compte Twitter et annoncé par un tweet qu'il allait avoir une grande conférence de presse le 11 avril. Ce que je pense, c'est que cette grande conférence de presse n'était pas vraiment réelle et qu'elle est plutôt là pour porter la thèse de Carlos Ghosn et de ses proches, qui est la thèse d'un complot. Ils sont convaincus que c'est Nissan qui travaille en collusion avec les procureurs pour le faire tomber. Et donc, en disant « Regardez, je vous promettais de dire la vérité et on m'arrête dans la foulée », ça alimente cette thèse du complot. Donc, on est plutôt dans une stratégie de communication que dans l'interruption d'un mouvement de prise de parole.
Merci Yann Rousseau. Je rappelle que vous êtes correspondant des Échos installé à Tokyo. Et puis, notons qu'hier, à la veille de cette arrestation, le conseil d'administration de Renault en France refusait la retraite chapeau de Carlos Ghosn. Elle aurait pu s'élever à 765 000 euros par an. C'est une décision de police sanitaire sans précédent qui doit être annoncée ce matin par l'Agence de sécurité du médicament et des produits de santé. La France s'apprête à interdire des modèles très répandus de prothèses mammaires. La cellule investigation de Radio France avec le consortium international des journalistes d'investigation en a été informée. 15 modèles d'implants vont être retirés du marché car ils sont soupçonnés de provoquer des cancers, Élodie Guéguin.
Ce sont les prothèses mammaires à enveloppe très rugueuse, qu'on appelle macro-texturées, qui posent problème, car elles peuvent provoquer des lymphomes à grandes cellules. 60 cas ont été recensés en France, plusieurs femmes en sont mortes. Après des mois de réflexion, les autorités sanitaires prennent donc une décision plutôt radicale, interdire toutes les prothèses macro-texturées, mais aussi les implants en polyuréthane. En tout, ce sont 15 modèles et 95 références d'implants qui devront être retirées du marché. Plusieurs centaines de milliers de Françaises portent des prothèses mammaires texturées. Les autorités ne recommandent pas à ces femmes de se faire retirer les implants de manière préventive, mais elles leur conseillent un suivi médical très régulier.
L'interdiction doit donc être annoncée ce matin. Une décision raisonnable, estime le professeur Laurent Lantieri, chirurgien plasticien à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Il existe, rappelle-t-il, des alternatives à ces prothèses.
Il y a d'autres prothèses, il y a d'autres possibilités thérapeutiques, en particulier pour la reconstruction après cancer. Je pense que c'est raisonnable aujourd'hui de ne plus en mettre vu le risque et l'augmentation du nombre de cas qui apparaissent dans le monde entier. Sur le nombre d'implants qui sont réellement posés, on dit entre 400 et 500 000. Pensez bien qu'entre 400 et 500 000, quand vous avez quelques cas, ça va de 1 sur 3 000 à 1 sur 10 000, le nombre de risques d'avoir ce lymphome anaplasique à grande cellule. Aujourd'hui, on connaît ce risque et on prend une mesure face à un risque qui est maintenant connu et reconnu.
Cancer et prothèses mammaires, la France qui interdit donc les modèles les plus répandus. Les précisions sont à retrouver également sur notre site franceculture.fr. La grève des enseignants s'annonce encore très suivie dans le primaire, au moins aujourd'hui. À Paris, la moitié des écoles resteront fermées, selon le SNUIPPFSU, qui appelle à la mobilisation avec les syndicats Force Ouvrière et Sud. Ils se mobilisent toujours contre le projet de loi de Jean-Michel Blanquer pour une école de la confiance. Céline Pinchot est membre du syndicat SNES en collège. Elle s'explique ce matin.
Nous sommes à nouveau en grève aujourd'hui parce que là, cette fois-ci, on fait face à une attaque sans précédent vraiment de notre école. On nous annonce 120 000 postes supprimés dans la fonction publique, 2650 postes supprimés dans l'éducation nationale, alors que on a des établissements, nous, à Pantin, qui débordent, on n'a plus de place pour accueillir nos élèves. Le recrutement des étudiants pour encadrer des classes, on va envoyer des jeunes sans formation en deuxième année de licence devant des élèves, parce que c'est un recrutement à bas coût qui coûtera beaucoup moins cher à l'État. Moi, je suis personnellement très, très en colère en tant qu'enseignante, mais aussi en tant que maman, quoi. Et ce qui est intéressant, et là, ce qui est un peu inédit, c'est qu'on a vraiment le soutien en plus, là, des parents. Il y a une colère qui monte parce qu'on a vraiment le sentiment, là, qu'on est en train de casser l'école et qu'on la casse de façon définitive et irrémédiable.
Les porte-parole des parents d'élèves mobilisés, effectivement, les parents d'élèves plus généralement, sont mobilisés à travers la deuxième fédération des parents d'élèves, la PEP. Son porte-parole, Samuel Sivi, comprend les inquiétudes des enseignants autour de la question des possibles regroupements entre un collège et plusieurs écoles primaires, notamment.
Le ministre a commencé à prendre des engagements pour dire que ses directeurs d'école seraient toujours là. Le problème, c'est qu'il faut après que les textes soient en concordance avec les vœux du ministre, parce que une fois que c'est dans la loi, on ne sait pas ce qui peut se passer un peu plus tard. Donc il est important que les textes s'adaptent. Mais c'est clair que le directeur d'école est un maillon important pour les familles, puisque c'est la personne que vous reconnaissez en tant que parent et c'est votre contact le plus important dans l'école. La loi Blanquer, le problème, c'est que c'est un ensemble de mesures qui sont totalement disparates, qu'il y a des choses très intéressantes, il y a des choses aussi nous qui nous interroge. Il est important que la discussion, le dialogue social se mette bien en place pour pas qu'on fasse d'erreur et que tout le monde tire dans le même sens.
Les étudiants sont aussi mobilisés aujourd'hui contre la politique plus généralement du gouvernement en matière d'éducation, la réforme du baccalauréat plus précisément. Écoutez les doléances des Français et de leurs élus. Emmanuel Macron veut s'y employer en faisant son tour de région dans le cadre du grand débat national. Après la Bretagne hier, il le termine en Corse aujourd'hui. Un dernier déplacement sous tension puisqu'une journée île morte est annoncée, puisque aussi une partie des élus nationalistes et indépendantistes vont boycotter ce déplacement, notamment les présidents du Conseil exécutif Gilles Simeoni et de l'Assemblée de Corse Jean-Guy Talamoni. Ce grand débat, Anne Fauquemberg, se transforme en dialogue de sourds.
À écouter les députés nationalistes, le grand débat, c'est déjà de l'histoire ancienne en Corse. Une conférence sociale territoriale organisée en fin d'année dernière, elle a donné lieu à une résolution sur la baisse des produits de première nécessité en train de se mettre en œuvre et une autre, plus complexe à concrétiser, sur le prix des carburants. Alors on ne va pas se mentir, estime le député autonomiste Michel Castellani, et contourner le vrai sujet, à savoir le futur statut de l'île de Beauté.
Il y a eu quelques avancées en matière fiscale, il y a eu la connaissance de la Corse zone de développement prioritaire. Il y a eu le crédit d'impôt sur la recherche et l'innovation, mais ça, c'est des gouttes d'eau par rapport à l'ampleur du problème corse. Des gouttes d'eau. Il y a des aspects techniques, mais sur le fond, la question corse est une question politique. Un peuple qui est ouvert, mais qui repose sur un sentiment d'appartenance. Et ça, sur une histoire, sur une tradition, sur une langue. Et ça, il faut impérativement que l'État-nation le prenne en compte.
Dans une tentative de reprendre la main, un an après la première visite d'Emmanuel Macron sur l'île, les élus nationalistes l'ont invité à l'Assemblée de Corse. Invitation évidemment refusée par l'Élysée, même si le communiqué précise que le chef de l'État reste disponible pour un échange à Cozzano ou plus tard à Paris. L'enjeu central, les modalités de l'inscription de la Corse dans la future réforme de la Constitution, un droit commun à la différenciation, solution défendue par l'exécutif, ou la reconnaissance d'une vraie spécificité comme pour les territoires d'outre-mer.
Emmanuel Macron sera ce matin donc à Ajaccio avant de rejoindre le village de montagne de Cotsan. Tente-t-il en cette fin de grand débat national de dégonfler les attentes ? Frédéric Saïs se posera la question dans son billet politique après ce journal.
8h10 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Le premier débat entre les candidats français aux élections européennes a lieu ce soir.
12 candidats vont s'affronter à moins de 2 mois des élections. 12 têtes de liste autour de plusieurs questions. Quelle politique en matière d'immigration ? Faut-il renforcer les frontières à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Europe ? Quelle fiscalité écologique serait acceptable par tous dans les pays de l'Union ? Chacun des candidats essaiera ainsi de présenter et ou de préciser son projet pour l'Europe, Stéphane Robert.
L'émission a été scindée en 2 parties distinctes qui dureront un peu plus d'1h30 chacune. La première sera consacrée aux questions régaliennes. Quelles frontières ? Comment les défend-on ? Quelle politique d'immigration ? Est-ce qu'on revoit Schengen ? Est-il possible de modifier ou d'aménager les institutions ? Et puis, dans un deuxième temps, les candidats aborderont les questions économiques et sociales. Doit-on aller vers une harmonisation de la fiscalité ? Peut-on imaginer un revenu minimum pour tout le monde ? Ou bien chaque État doit-il s'en tenir à ce qu'il concerne, sans se préoccuper des autres ? Chaque candidat aura à tour de rôle 1 minute 30 pour aborder chacune de ces questions. Ils pourront faire valoir un droit de relance ou un droit de réplique pour préciser une disposition ou pour contredire un autre débatteur. Attention, pas plus de 30 secondes pour la relance ou la réplique. Tout sera décompté, à chacun donc de gérer à sa guise le temps total dont il disposera. Si on fait les comptes sur un débat qui durera entre 3h et 3h30 avec une douzaine de candidats, ça fait 12 minutes chacun environ, c'est peu. Il faudra dès lors que chacun fasse des choix sur les thématiques qu'il développe ou pas. Par ailleurs, les organisateurs ont imaginé 2 séquences de vote à l'issue de chacune des 2 parties. Les 12 candidats se prononceront sur 2 questions, pour, contre, abstention. Et pour commencer cette émission, le tirage au sort a désigné François Asselineau, suivi de Nicolas Dupont-Aignan et de Jean-Christophe Lagarde. Les débats commenceront à 21h08 précisément.
Et loin de ce type de débat à moins de 2 mois des élections européennes, au Royaume-Uni, ça se complique encore dans le feuilleton du Brexit. Un secrétaire d'État britannique a démissionné hier. Il était opposé à un nouveau report de la date de sortie de l'Union européenne. C'est pourtant bien ce que veut Theresa May. La première ministre a même tendu la main à son adversaire Jeremy Corbyn pour demander un peu plus de temps. Les discussions avancent, disent les 2 parties. Quand les députés britanniques, eux, ont voté hier pour que Theresa May négocie effectivement un nouveau report du 12 avril au 22 mai. Il faudrait pour que Bruxelles accepte que les élus à Londres se mettent d'accord sur un texte. Abdelaziz Bouteflika écrit une lettre à la nation algérienne dans laquelle il demande pardon pour les erreurs qu'il a pu faire. Pour les manifestants, en revanche, sa démission ne suffit pas. Ils veulent toujours la fin de tout le système. Hier, le Conseil constitutionnel s'est réuni pour constater la vacance définitive du pouvoir. Sur notre site franceculture.fr, vous pouvez découvrir ce matin un entretien avec Mustapha Bouchachi. Il est avocat, défenseur des droits de l'homme et surtout figure montante de l'opposition algérienne. Entretien signé Nabila Hamel. 2 semaines après le passage du cyclone Idaï, le nombre de cas de choléra enregistrés au Mozambique continue d'augmenter. Avec plus 1 millier de cas recensés, 96 patients au moins sont toujours hospitalisés. Le risque de choléra augmente et ce malgré l'aide des autorités et des nombreuses ONG qui sont sur place pour faciliter l'accès aux soins. Corinne Thor est coordinatrice d'urgence à Médecins Sans Frontières. Elle se trouve à l'extérieur de la ville de Beira, dans une zone encore sensible. Et elle décrit pour nous la difficulté d'intervenir.
Le choléra, c'est un peu une course contre la montre. La prise en charge doit se faire le plus rapidement possible. Donc, si les centres de santé ne sont pas opérationnels, eh bien, nous risquons d'avoir des personnes qui ont des diarrhées et qui, au bout de 24 heures, peuvent mourir faute de soins. Là, il ne pleut plus actuellement, donc Nous pouvons, dans certaines régions, accéder par canoë auprès de ces populations, mais cela veut dire qu'il faut impérativement qu'il y ait du personnel disponible et qu'il y ait surtout le moyen de pouvoir les hospitaliser si cela est nécessaire. Donc, ce sont des personnes qui vivent dehors, sans moustiquaires, sans accès aux soins, qui boivent de l'eau qui est absolument insalubre. Il faut bouger ces populations isolées vers des lieux où il y a toutes les infrastructures en place pour éviter que cette épidémie de choléra se propage.
Des propos recueillis par Olivier Poujade. Notons qu'hier, les autorités au Mozambique ont donné le coup d'envoi d'une vaste campagne de vaccination contre le choléra, justement. Ce jeudi en France s'annonce toujours frais, entre nuages et éclaircies dans les terres. Des pluies sont prévues de la Bretagne à l'Aquitaine ainsi que sur les frontières de l'Est. Comptez ce matin 4 degrés à Strasbourg, 8 à Rennes et Paris, 9 degrés à Bordeaux et puis entre 11 et 12 degrés près de la Méditerranée.
Merci Clara Lecoq-Réal. Il est 8h15 sur France Culture. Dans 30 minutes environ, Mathilde Serrel nous livrera un billet culturel sur Le Corbusier, l'architecte. Le Corbusier, Salvatore Mundi sera au cœur de la conclusion d'Aurélien Bélanger. Et puis on parlera du combat Adama, le titre de l'ouvrage que publient Assa Traoré et Geoffroy de la Gannerie. Nos invités dans quelques instants, un billet politique en votre compagnie, Frédéric Seiz.
Bonjour Guillaume Mernet, bonjour à tous.
Bonjour.
Il va être question du grand débat national, comment en sortir sans susciter la déception ?